Alors, nous vous souhaitons la bienvenue ici à Longueuil. Bienvenue à notre communauté en ligne qui sont là par milliers à suivre cette célébration aujourd'hui. Bienvenue à la Nouvelle Vie sur tous nos sites, mais je voudrais souligner ce matin, nous voulons souhaiter une bienvenue particulière à Nouvelle Vie, Charlevoix, qui sont réunis ensemble dans leur nouveau local, tout nouveau local en plein centre-ville de la Malbaie. Ils sont ensemble réunis pour regarder, pour vivre cette réunion avec nous. Alors, est-ce qu'on peut célébrer, est-ce qu'on peut envoyer un bonjour à Charlevoix? Voulez-vous pousser un cri d'encouragement pour Nouvelle Vie Charlevoix? Quelle joie de sauter, de plonger dans cette toute nouvelle série, le Dieu que tu ne connais pas. Le Dieu que tu ne connais pas. Je suis tellement heureux, je suis excité, enthousiasmé de vous apporter cette série parce qu'elle peut changer ta vie. Elle peut changer votre vie. Elle a changé le cours de l'histoire et la découverte de Dieu que tu ne connaissais pas peut changer le cours de ta vie. Et cette série repose sur plusieurs réalités sociales et spirituelles qui sont irréfutables, qui sont des réalités irréfutables. J'en nomme quelques-unes. La première, c'est que les gens ont soif de spiritualité. Tous les sondages le disent, les gens rejettent la religion, mais ont soif de spiritualité, de valeur, de paix, d'intériorité, de transcendance, de guérison, d'un sens à leur vie et à la mort. Mais une deuxième réalité, c'est que les gens en grand nombre rejettent Dieu, rejettent le christianisme, mais en même temps, des gens par millions se tourne vers Dieu révélé en Jésus-Christ. C'est le paradoxe. Il y a une étude qui a été, une série d'articles dans le Washington Post qui avait ce titre, « Le monde regardait aux prochains 30-40 ans » et disait « Le monde ne va pas devenir de plus en plus, le monde va devenir de plus en plus croyant, pas moins. » De plus en plus croyants. Il y a 4 personnes sur 5 sur la terre qui considèrent comme raisonnable pour une partie importante de leur vie de croire en Dieu. Une autre réalité, c'est que les gens qui disent ne pas croire en Dieu ou au christianisme ont en majorité des idées radicalement fausses sur ce qu'ils pensent que le christianisme est, sur le christianisme et la foi, ce que le christianisme et la foi en Dieu sont réellement. Les gens qui se disent fermés, détachés, indifférents, hostiles ou qui ont rejeté la foi chrétienne, pour la vaste majorité, ne connaissent pas du tout ce qu'ils rejettent. Ils ont une projection, ils ont une image des générations passées, que ce que le religieux leur a régurgité, mais ils rejettent ce qu'ils ne connaissent pas bien. Croyez-moi, moi j'ai eu des conversations même avec des gens, des médias qui ont plein d'opinions sur plein de choses, et tu leur parles pendant 2 minutes, ils n'ont aucune connaissance de ce qu'ils ont rejeté. Je veux te dire à toi, c'est dangereux spirituellement, humainement, pour toute ta vie, de rejeter ce que tu ne connais pas bien. Une autre réalité et fondement de cette série, le Dieu que tu ne connais pas, c'est que les gens qui ont la foi, vous et moi, et toi en ligne, les gens qui ont la foi, qui croient en Dieu, qui sont chrétiens, ont souvent énormément de difficultés à expliquer leur expérience, à défendre ce qu'ils ont découvert, à bien communiquer ce Dieu qu'ils aiment, mais qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne savent pas comment le communiquer. Alors aujourd'hui, même le titre de notre série est tiré directement d'un passage de la Bible, d'un livre de la Bible qui s'appelle « Les Actes des apôtres » qui nous donne un récit qui est chronologique, historique, véridique et chronologique de la naissance de l'Église chrétienne sur la terre. Et on va retrouver un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Il avait été un intégriste religieux, meurtrier, violemment anti-Jésus, anti-Christ, anti-Bonne Nouvelle, qui avait sauvagement persécuté les chrétiens jusqu'à ce qu'il ait une expérience face à face avec le Dieu qu'il ne connaissait pas, révélé en Jésus-Christ. Ça l'a complètement bouleversé, changé sa vie. Il devient quelqu'un qui annonce Jésus-Christ et on le retrouve dans Actes 17. Dans la ville d'Athènes. Je vais vous l'expliquer plus en détail, mais la ville d'Athènes à l'époque était nommée la ville des 10 000 dieux. C'était une ville où chacun se créait sa version de Dieu selon ce qui l'arrangeait. Et dans Actes 17, 23, L'apôtre Paul est devant eux et il dit, « Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Je suis venu pour vous annoncer ce Dieu que vous ne connaissez pas. » C'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines ensemble. La vision et l'intentionnalité de notre série pour les prochaines semaines se résume en quelques mots. Découvrir. Pour toi qui es athée, pour toi qui es agnostique, pour toi qui a été blessé, pour toi qui es sceptique, ou juste pas très informé avec plein de questions en tête et en cœur, cette série est pour toi qui va t'aider à découvrir vraiment le Dieu que tu ne connaissais pas. C'est aussi le mot « défendre » pour toi qui es chrétien. Pour toi qui est chrétien qui a la foi, mais qui se sent démuni face à comment communiquer cette foi-là dans un environnement qui est si post-chrétien et antichrist dans beaucoup de mesures dans notre nation et à notre époque. Le troisième mot de notre série, c'est découvrir, défendre, apprendre à défendre, mais aussi à demeurer. Et ça, c'est pour toi qui peut-être a grandi dans l'Église, que tu aimes Dieu, il y a une foi que tu as héritée, mais tu as frappé le secondaire, le cégep, l'université, et tu es secoué, tu es attaqué dans ta foi. Tu ne sais pas si tu vas demeurer. J'ai absolument confiance que cette série va te donner, va t'outiller, va répondre à des questions et va t'outiller afin que ceux qui ont à le faire puissent découvrir, qu'on puisse défendre, qu'on puisse demeurer et aussi décider. C'est une série, toi en ligne, toi ici, où tu vas être appelé à décider, à la plus grande décision de ta vie, à décider si tu vas ouvrir ton cœur et recevoir le Dieu que tu ne connaissais pas, manifesté, incarné en Jésus-Christ. Et j'aimerais que tous ceux qui, dans ce lieu, ont pris cette décision, et ça a été la meilleure décision de votre vie, que vous puissiez acclamer plus fort que dans n'importe quel match de foot ou de hockey ou spectacle. Allez, donnez-moi une seconde, nouvelle vie. Le Dieu que tu ne connais pas. Nous entendons souvent dire, c'est difficile de croire en Dieu dans notre culture moderne, qui est tellement hostile, qui est sceptique et même parfois méprisante envers l'Évangile, envers le message de Jésus. Ça a amené une grande portion du christianisme des églises à une mentalité de bunker, une mentalité où on reste entre nous parce que c'est tellement difficile de partager sa foi dans le monde dans lequel nous vivons. Mais il faut que vous compreniez que la culture dans laquelle le christianisme est né, la culture dans laquelle Paul a donné ce message extraordinaire à Athènes, où il leur a présenté le Dieu qu'ils ne connaissaient pas, était tout aussi hostile et réfractaire au message de Jésus. Mais cette poignée d'hommes et de femmes qui ont vu le Christ ressuscité, et oui, il va y avoir un message sur pourquoi croire rationnellement, preuve de la résurrection. Mais cette poignée d'hommes et de femmes qui ont déclaré avoir vu le Christ ressuscité ont littéralement changer le monde. Le message du Dieu que vous ne connaissez pas a été tellement puissant qu'il a transformé l'Empire romain, a renversé, transformé l'Empire romain, alors que des multitudes sont devenues chrétiennes, même au prix de leur vie. Et le christianisme grandit de façon exponentielle sur la terre depuis. Il y a quelques années, plusieurs années, parce que c'était les premiers, je pense que c'était même la première ou deuxième année de Nouvelle Vie, avec quelques centaines de personnes de Nouvelle Vie. Dieu touchait des cœurs. Et j'ai été invité à aller apporter la parole à une grande conférence dans l'Ouest canadien, Mission Fest. C'était impressionnant. C'était au Pan Pacific Hotel là-bas, grand centre de congrès. Et il y avait près de 10 000 leaders et pasteurs chrétiens de plus d'une quarantaine de pays qui étaient là. Et moi, j'ai prêché 4 ou 5 fois, des plénières, des ateliers. Et entre les plénières et ateliers où j'apportais la parole, j'allais assister. Il y avait un immense programme avec tous les ateliers. Et il y a un atelier qui a attiré mon attention. Il y avait un atelier qui disait « Atelier pour pasteurs d'église de 5 000 personnes et plus ». Et je me suis dit, ça va être trois personnes, un Africain et un Coréen qui vont être assis ensemble autour d'une table. Quelle sorte d'atelier? Alors, je me suis approché de la salle et c'était marqué « Atelier pour pasteurs d'église de 5 000 personnes et plus, complet ». Comment complet? Alors, quelle sorte de salle? Alors, il y avait quelqu'un qui était là à l'entrée. Je dis, est-ce que je peux regarder? Il dit, oui, allez-y. Allez. Et j'ai penché la tête et j'ai regardé. Et il y avait une salle à perte de vue de toutes les couleurs, toutes les nations, toutes les cultures possibles de pasteurs qui étaient là. Et j'ai sorti de cette pièce. Et lorsque j'arrivais sur la fin de l'atelier, merci à vous, pasteurs de 5 000 personnes et plus. On va maintenant faire la deuxième partie pour les pasteurs d'église de 10 000 personnes et plus. J'ai sorti de cette pièce avec ce sens tellement profond dans mon esprit. Dieu agit sur la terre. Dieu agit sur la terre. L'Esprit de Dieu sauve des âmes. Jésus-Christ est élevé partout dans les nations et la parole de Dieu n'est pas liée. Et il va augmenter, intensifier, exponentialiser son impact jusqu'à son retour. Et nous allons en faire partie. Quelqu'un devrait dire oui. Il n'y a pas de meilleur endroit dans la Bible que les Actes des apôtres pour découvrir le message du Dieu que tu ne connais pas. Les Actes sont écrits par un médecin, Luc, un scientifique devenu chrétien, qui a écrit à un homme qui était culturellement et intellectuellement sophistiqué, Théophile. Et le but, littéralement, vous lirez les premiers versets de Acte 1, c'était de l'aider, d'aider Théophile, inspiré par l'Esprit, dans son cheminement. Théophile avait fait des pas de foi, mais avait des questions, avait besoin de comprendre, avait besoin d'être outillé, équipé pour savoir s'il était pour réellement croire en ce Dieu qu'il ne connaissait pas auparavant. Et je m'adresse à toi en ligne et à toi ici. T'es dans ce cas, tu écoutes le message, tu as été touché pendant la pandémie, tu as connu Dieu, ou tu es venu, tu t'es éloigné, tu reviens, mais tu es rempli de questions, c'est pour toi. Cette série-là, elle est pour toi. Et dans les prochaines semaines, juste vous donner un aperçu des deux prochains messages de la série. À partir de ce texte de Acte 17, je donne un devoir à tout le monde. Lisez Acte 17, versets 15 à 34 chez vous à la maison, parce que dans chacune des grandes déclarations de Paul, il y a des messages que nous allons apporter en profondeur dans les prochaines semaines et mois. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle, il dit, je vais vous présenter le Dieu que vous ne connaissez pas. Il dit, le Dieu que tu ne connais pas, il est le Dieu créateur. Dans le même message, le même discours à l'aréopage, Acte 17, 24, ce Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur et du ciel et de la terre. Ce Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. La semaine prochaine, nous allons avoir un message spécifiquement sur ce sujet. Dieu, la science, les preuves, l'aube d'une révolution, la science nouvelle alliée de Dieu. Il apparaît à l'écran un livre qui a été écrit récemment. C'est un parmi des centaines de livres qui sont écrits par des scientifiques renommés. Dans ce livre-là, il y a plusieurs centaines de citations, dont de titulaires des gagnants du prix Nobel de science. Et il y a une chose qui est fascinante, si vous connaissez un peu d'histoire. Louis Pasteur a dit « Un peu de science va peut-être t'éloigner de Dieu ». Mais beaucoup de science va te ramener à Dieu. Et il y a, si vous êtes un fervent de l'histoire, dans les derniers 100 ans, et je dirais même, à partir même, et plus, encore plus intensifié à partir des années 60, il y avait dans certains milieux philosophiques, éducationnels, académiques, la présomption qu'avec l'exponentialisation de la connaissance, la science, l'éducation, le savoir, et des milliers de nouvelles découvertes, explosion de nouvelles découvertes et avancements et découvertes des technologies et sciences modernes, qu'alors que la science était pour monter à ce paroxysme, que la foi et la spiritualité étaient pour disparaître. Et c'est absolument, exactement le contraire qui a pris place. C'est le contraire qui a pris place. Ça, c'est factuel. Personne ne peut le nier. Et la semaine prochaine, nous allons avoir comme invité Dr. Stéphanie Rideau-Poirier. Elle est docteure en biochimie. Elle a été décorée avec l'Ordre du gouverneur du Canada pour ses travaux de recherche sur le cancer. Et elle va apporter, elle est conférencière, elle est auteure d'un livre « Science et foi, est-il possible? » Elle est en ce moment même à Paris en train de donner des conférences. Elle va être ici dimanche prochain. Et Pasteur Stéphanie va nous démontrer pourquoi. En fait, ça prend beaucoup plus de foi pour croire qu'il n'y a pas de créateur, que tout ça s'est fait par soi, que de croire en Dieu comme première cause, comme source de l'univers, dans toute sa complexité, dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. On a tous ces conversations. J'ai ces conversations, on a cette conversation avec notre entourage ou à quelqu'un qui te rencontre la première fois, qui ne te connaît pas bien. Et à un moment donné où tu vas parler de ta foi, et on a tous été apostrophés avec le genre de questions comme « Dis-moi pas que tu as la foi. Dis-moi pas que tu crois que tu as la foi en 2022. » Alors, comme chrétien, nous, on répond « Oui, j'ai la foi en un Dieu créateur. Toi, tu as la foi en quoi? » pour expliquer la création construite si parfaite de cet univers infiniment complexe dans sa complexité, sa précision et sa stupéfiante coordination. Alors les gens vont vous répondre absolument quelque chose comme, ben, à un moment dans les millénaires des millénaires, il y a une cellule unique. Et dans les millénaires suivants, la cellule unique a dit qu'il faudrait qu'il y ait deux cellules uniques. Et après ça, quatre cellules uniques, et c'est de là que tout est venu. Et bien sûr, le chrétien pose la question, et d'où venait la cellule unique? L'auteur aux Hébreux dit de cette façon, Hébreux 3, 4, « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. » Si vous regardez à l'ouragan Yann qui vient de prendre place, il y a des milliers de maisons qui sont démolies, qui sont dévastées, des quartiers entiers. Qui dirait de manière rationnelle, on va aller décharger des tonnes de bois et de métal, pêle-mêle, on va décharger des tonnes de bois et de métal, et dans la suite des temps, ils vont se rebâtir tout seuls. Ils vont se rebâtir avec intelligence, avec design, tout va se rebâtir parfaitement. Souvent, un athée ou un agnostique va dire, je n'ai pas la foi, je suis rationnel, je suis un cartésien. Non, tu as beaucoup de foi, tu as la foi dans l'équation que rien plus personne égale tout. C'est la foi de. Alors, on va regarder ensemble dans les prochains messages à 10 raisons raisonnables de croire en l'existence d'un Dieu créateur. La loi de des choses comme des principes universaux comme la loi de cause à effet. Aucun effet ne peut devenir réalité sans une cause. Lorsque je regarde tout ce qui prend place, il y a une cause derrière, il y a une première cause. La loi du dessein intelligent. L'ordre intelligent vient de l'ordre et de l'intelligence. Le chaos et le néant ne peuvent pas produire l'ordre et l'intelligence de ce monde. La loi des lois du témoignage empirique de la science et ce que j'appelle la loi de la transformation et de l'expérience spirituelle. Une des lois, une des manifestations du Dieu créateur, c'est que je sais et que des millions peuvent témoigner de ce que Dieu a créé en nous. Et si quelqu'un vient à Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Il a créé en nous un cœur nouveau, une capacité nouvelle, une consolation nouvelle, un pardon nouveau, une liberté nouvelle. Dites amen à n'importe quel moment. Il est le créateur et notre témoignage, le témoignage de millions de chrétiens à travers l'histoire et de toi et moi aujourd'hui, témoigne de son œuvre en nous, veux-tu célébrer l'œuvre du Créateur. Nous allons aussi, dans cette série, nous allons aussi, je vous donne juste un deuxième thème, on va les développer dans les prochaines semaines. Le dimanche suivant, dimanche prochain, le Dieu Créateur. Le dimanche suivant, je vais apporter un message qui est extrêmement important sur le Dieu, je vais intituler « Le Dieu corrompu dans la perception des hommes ». Corrompu par les hommes dans la perception des hommes. Et Paul l'adresse, il y a 2000 ans, à Athènes, dans Actes 17, versets 24, 25 et 29. Le Seigneur du ciel et de la terre n'habite pas dans les temples faits des mains des hommes. Les mains humaines n'ont pas servi Dieu. Nous ne devons pas croire que les divinités sont trouvées dans l'or, l'argent et les pierres, ou dans l'art et les réalisations des hommes. Dans ma vie, j'ai visité certaines des cathédrales religieuses, les plus célèbres du monde, à couper le souffle, réalisation des hommes, de la basilique Saint-Pierre de Rome à la Sagrada Familia par Antonio Gaudí qui est à Barcelone, qui est somptueuse, des temples grandioses que j'ai visités, hindouistes, bouddhistes, au Népal, au Bangladesh, des synagogues, des mosquées couvertes d'or, d'argent et de pierres précieuses, chefs-d'œuvre d'art de réalisation. J'ai aussi apporté la parole, prêché, donné des conférences dans des églises avec 10 000 sièges et le niveau de technologie moderne le plus élevé. Écoutez-moi bien. Tous les temples religieux, toutes les religions ont commis et commettent encore des atrocités qui ont corrompu auprès de multitudes l'identité et l'intention divine qui est révélée en la personne de Jésus-Christ. Si tu veux savoir qui est le Dieu que tu ne connais pas, regarde au Seigneur Jésus-Christ. Ne regarde pas au témoignage des temples des hommes à travers les siècles qui ont donné une représentation souvent diamétralement opposée et contraire à ce que signifie de croire en Dieu. Les mains des hommes n'ont pas servi Dieu. Ils n'habitent pas dans dans des temples faits par les mains des hommes. À chaque jour au Québec, des pensionnats, des atrocités, des pensionnats autochtones et aux nouvelles, partout à travers le monde, aux abus et à la domination de preachers cupides et d'églises qui abusent et dominent les gens jusqu'à toutes sortes de formes et de temples religieuses qui sont là et qui ont souillé l'histoire avec leurs fausses représentations de Dieu. J'ai besoin de le dire aujourd'hui. Dieu n'habite pas dans des temples faits par les mains des hommes. Il habite dans des cœurs. Il habite dans des vies. Il vient à toi. Personnellement, il veut habiter en toi. C'est pour ça que dans deux semaines, nous allons avoir un des messages les plus importants de cette série. Je vais apporter un message qui va s'intituler « J'ai été blessé par l'Église ». J'ai été blessé par l'Église. Alors, si c'était ton cas, en ligne, invite tout le monde que tu connais qui ont été blessés par l'Église. Ce que Dieu dit, ce que le Dieu que tu ne connais pas dit à celui ou celle qui a été blessé par l'Église. Et je crois de tout mon cœur que cet automne, il va y avoir des dizaines et centaines et milliers en ligne d'hommes et de femmes qui vont recevoir une guérison alors qu'ils ont été blessés par l'Église. Combien veulent prier avec moi afin que l'Esprit de Dieu puisse révéler et consoler? Aujourd'hui, on va avoir, dans notre message, on va de lancement, on va regarder à quelques fondements à partir de notre texte de Actes 17. Tant pour toi qui es chrétien, ce n'est pas une série seulement pour celui qui ne connaît pas le Seigneur, au contraire. Tant pour toi qui est chrétien, ou toi qui es loin de Dieu, ou toi qui l'as connu, qui s'est éloigné, ou toi qui es en rapprochement, mais qui a plein de questions. Alors, on va regarder ensemble le Dieu que tu ne connais pas, et on va lire notre texte dans Actes 17, les versets 15 à 21. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisaient jusqu'à Athènes, puis s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de les rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il se sentait au-dedans de lui son esprit irrité à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus la résurrection, disaient « il semble qu'il annonce des divinités étrangères ». Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir de quelle est cette nouvelle doctrine, ce nouvel enseignement, ce que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges, mais nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. » Je veux m'adresser dans cette série aujourd'hui, Dieu veut parler aux croyants avant de parler aux non-croyants. Parce qu'il n'y a pas de mouvement de boisson miraculeuse sans des messagers qui connaissent vraiment leur mission. Et ma première pensée, la première description de Dieu que tu ne connais pas dans ce texte que nous venons de lire, je veux parler à tous les chrétiens en ligne et en personne. Le Dieu que tu ne connais pas nous appelle à l'agora et à l'aréopage. Dans le texte qu'on vient de lire, l'apôtre Paul en est à son deuxième voyage missionnaire. Ils ont été opposés, dénigrés, persécutés à chaque étape du chemin. C'est un combat. Mais l'apôtre Paul avait une mission multisite. Il avait été envoyé par Antioche dans les chapitres précédents. Il implante une église à Philippe, à Thessalonique et à Bérée. Il a formé, comme nous le faisons, des pasteurs, Luc, Silas, Timothée, pour chacune des églises. Ce n'est pas facile, ce n'est pas instantané, ce n'est pas sans confrontation, effort, foi et investissement, mais c'est puissant et c'est ainsi que le royaume de Dieu avance. Vous pouvez vous dire amen pour chaque site de nouvelle vie qui se multiplie. Au verset 16, il est seul à Athènes, il est isolé, fatigué. Peut-être certains commentateurs pensent qu'il fait face au découragement et il se sent seul, mais c'est là que Dieu va lui donner ce message, cette révélation, va la renouveler en lui pour les Athéniens, mais aussi pour nous et pour chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Il est à Athènes, qui était la ville la plus importante de Grèce. C'était le centre intellectuel, culturel de tout l'Empire romain. Athènes avait été conquis, mais il demeurait le centre. C'était la ville des philosophes. C'était la ville de Socrate et d'Épicure, de Platon, de Pythagore, d'Aristote et autres philosophes qui sont encore cités et étudiés aujourd'hui. Et le Dieu que tu ne connais pas nous appelle tous à l'agora et à l'aréopage. Parce que l'apôtre Paul arrive et il va parler à l'intérieur, il va parler au temple, aux croyants, à l'assemblée. Mais lorsque vous lisez le mot et il se rendit sur la place publique, c'est le mot agora. C'est l'agora. C'est un mot qui parle de rassemblement. Et l'agora, c'était en plein cœur de la ville. C'était le centre médical, le lieu d'ultime information. Il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de télé, rien de ça à l'époque. Alors, il y avait des déclarations publiques qui étaient faites 7 jours sur 7. Si tu veux savoir ce qui se passe, tu allais à l'agora. C'était le centre médiatique. C'était le carrefour financier, le quartier des spectacles, Wall Street, le centre des beaux-arts, la bourse. Et c'était le dispensateur suprême de valeurs philosophiques, d'idées, d'éthos et de pensées existentielles. C'était là qu'on parlait les premiers influenceurs. C'était le lieu des influenceurs. Et c'était, on nous dit même, on a lu le verset 21, que les Athéniens passaient leur temps à texter, à poster sur les médias sociaux, à dire et à écouter des manchettes du contenu sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok et sur Snapchat. Est-ce que vous avez vu ça dans le texte? Passer leur journée à entendre et écouter des nouvelles. Il y a certaines choses qui ne changent jamais. Et maintenant, à la vue de cette ville qui était remplie d'idoles et d'influenceurs, les commentateurs parlent que c'était une ville où il y avait 10 000 idoles. 10 000 petits sanctuaires, 10 000 petits hôtels, 10 000 petits mémorials qui étaient là, où chacun s'était façonné, chacun était, avait créé son propre Dieu, son propre objet de dévotion, de passion, de confiance, de religion, de philosophie, de vie, de vision du monde et de Dieu. Et comprenez bien la réponse de l'apôtre Paul, elle est tellement importante parce qu'elle doit dicter comment nous allons répondre. Si nous sommes pour être son peuple sur la terre. Le Dieu que tu ne connais pas, c'est pour ça que ce n'est pas seulement pour ceux qui sont à l'extérieur. Il y a le Dieu que tu ne connais pas parle à chaque croyant et il nous appelle à l'agora et à l'aréopage. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville qui était pleine d'idoles. Le mot traduit en français « irrité » ici est une des très mauvaises traductions que tu peux avoir parce que le mot original, « paroxysomé », on en tire le mot « paroxysme », « ultime émotion », parle en fait de… c'est un mot complexe, un mot qui parle que ce qui habitait Paul à ce moment-là, il était grandement bouleversé, il était remué, il était perturbé, un mélange de peine… mais aussi de répulsion face à ce qui prenait place. Certaines de ces idoles étaient, on y offrait des enfants, certaines de ces idoles avaient toutes sortes de connotations qui étaient absolument abjectes, contraires à Dieu. Alors, il y a quelque chose dans le cœur de Paul, un mélange de peine, comme vous et moi aujourd'hui, face à beaucoup de choses qui prennent place dans notre monde, de peine, de révulsion, de consternation, qu'est-ce qu'on en est rendu là, de colère et de compassion, un sentiment d'urgence, paroxysmé. Je dois faire quelque chose. C'est un mot complexe qui reflète le cœur de Dieu. C'est l'amour, le bouleversement et en même temps la colère d'un Dieu qui voit ses enfants qu'il aime si profondément, il les voit se détruire dans leur attachement à des choses qui les lient, à des choses qui les aveuglent, à des choses qui les désespèrent, à des choses qui les éloignent du Dieu qu'ils ne connaissent pas et qu'ils disent ne pas vouloir connaître. Avez-vous déjà été tellement bouleversé? Avez-vous déjà tellement aimé quelqu'un, souffert de les voir se détruire en cherchant leur affirmation, leur amour, en cherchant leur vie dans toutes sortes de choses qui les détruisent? C'est ça qui prend place dans le cœur de Paul. Son esprit, en fait, par l'Esprit de Dieu, il devient une miniature représentation humaine. Il incarne ce que Dieu ressent. Dieu dit, Dieu pour chaque personne qui est loin de lui, qui a créé une idole et qui bousille sa vie ou qui simplement l'éloigne de lui, Dieu dit, je t'aime, mais je t'ai perdu. Je t'aime, mais je t'ai perdu. Je t'ai créé pour une vie avec moi, abondante et libre, mais tu bâtis ta vie sur ce qui est bien trop petit pour ton âme. Tout sur lequel tu bâtis ta vie ne pourra jamais te satisfaire. C'est bien trop petit pour ton âme. Tu as été bâti pour que moi, je vive en toi dans toute l'abondance de la vie que je veux te donner. Le Dieu que tu ne connais pas nous appelle, nous, à l'agora. Nous appelle non seulement à l'intérieur de l'Église, mais sur la place publique, non seulement en présentiel, mais en ligne. Nous appelle non seulement, même à chaque dimanche, à jamais à nous parler entre nous. Le texte ne dit pas, et Paul, irrité à la vue des idoles, ferma la porte et dit, ce monde est tellement pourri, on va rester entre nous jusqu'à temps que Jésus revienne. Non, l'apôtre Paul a dit, ne s'est jamais contenté, arrêter, à être limité, à être irrité. Il n'est pas allé se cantonner dans la synagogue par frustration, colère et découragement face à une société contraire au cœur de Dieu. Il s'est impliqué. il s'est investi, il a incarné le cœur de Dieu sans relâche à inviter ceux qui ne le connaissent pas à ouvrir leur cœur au Dieu qu'ils ne connaissent pas. À qui Paul s'adressait-il? C'est important pour nous, toi et moi, de savoir, parce que c'est nous aussi, c'est la même chose aujourd'hui, c'est notre appel. S'il nous appelle à l'agora et à l'aréopage. L'agora, c'était le lieu public. L'aréopage, c'était le lieu, c'était comme le tribunal. C'était le lieu le plus élevé de la ville. C'était là où les décisions de vie et de mort prenaient place. Et nous sommes appelés, nous avons le message pour chaque être humain, chaque Québécois, chacun de tes amis, de ta famille. Nous avons le message pour la décision la plus importante qu'un être humain peut prendre, la décision de vie et de mort sur cette terre éternelle. Nous avons le message que la vie est dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés. À l'agora, à qui s'adressait-il? Il s'adressait à l'agora et à l'aréopage. Il s'adressait, comme nous devons nous adresser, à des philosophies, aux épicuriens, obsédés par le désir, la satisfaction des cinq sens. Et Épicure prônait l'hédonisme absolu, sans aucune dimension morale. Seulement mon plaisir, ma richesse, ma situation, ma satisfaction. Le résultat, tous les commentateurs de la Grèce antique, de l'époque d'Athènes, de l'époque, une société de décadence, une société d'abus, de prostitution enfantine, d'esclavage, une société où en même temps, il y a une couche de la société qui est en festin et fête perpétuelle, alors que le reste sont dans la famine et le reste sont dans la pauvreté. Le Dieu que tu ne connais pas nous appelle à l'agora et à l'aréopage. Il s'adressait à des épicuriens, une école de pensée, une philosophie qui mettait la valeur suprême sur le plaisir, à être intentionnel et déterminé à ignorer la douleur qui les entourait et tout ce qui pourrait déranger leur bien-être. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu comme Église pour nous lever et entrer dans l'agora de la vie de tous les jours. Et eh bien, je ne fais pas de politique ce matin à la veille des élections, mais s'il y a une chose qui est troublante, c'est que tu peux regarder tous les débats et tout ce qui prend place. Et qu'est-ce qui est absent? Qu'est-ce qui est comme si ça n'existait pas? Qu'est-ce qui est absent? C'est les pauvres. Qu'est-ce qui est absent? C'est les abusés. Qu'est-ce qui est absent? C'est les communautés les plus négligées. Qu'est-ce qui est absent? C'est le prix du panier alimentaire. Qu'est-ce qui est absent? C'est qu'est-ce qu'on va faire pour nos aînés. Nous sommes une voix par représentation du cœur de Dieu au milieu de notre société qui rappelle qu'on ne se ferme pas les yeux à ce qu'il y a autour. On est là pour changer. Il était appelé aux stoïciens. La philosophie la plus répandue de la Grèce antique, c'était le stoïcisme des multitudes qui s'identifiaient formellement au stoïcisme, mais vivaient selon ses tenants. Ils étaient des panthéistes. Tu crées ton propre Dieu. Tout devient ton Dieu. C'est toi qui le détermine. Tu peux être ton propre Dieu. Tu peux faire de ce que tu veux ton Dieu. Tu vis dans un monde, la philosophie était celle-ci, tu vis dans un monde déterminé par un destin incontrôlable où les humains doivent se résigner à essayer de survivre, c'est la loi du plus fort, à leur chemin par eux-mêmes et de subir avec une tolérance, à essayer de développer une tolérance, à porter tous les fardeaux, combats et épreuves, drames et pressions et tragédies de la vie par tes propres forces et par tes propres ressources. Le stoïque préconisait, il n'y a rien avant la vie, il n'y a rien d'autre que toi pendant la vie et il n'y a rien après. Le Dieu que tu ne connais pas ne dit, j'étais là avant ta vie, je te connaissais dans le sein de ta mère, je suis là avec toi en ce moment et il y a une vie après et tu peux recevoir ma vie abondante maintenant pour entrer dans ma vie éternelle par la suite. Dieu dit, je t'appelle, il nous appelle. Le Dieu que tu ne connais pas nous appelle tous, nous ramène tous à être son peuple, nous appelle à l'agora et à l'aréopage de la vie. Parce que dans l'agora et l'aréopage de leur cœur, vous le texte, il y en a qui se moquent, mais il y a cette phrase qui m'a bouleversé alors qu'ils ont dit, on ne comprend pas ce que tu nous dis, c'est étranger, mais nous voudrions savoir. Oh, nous voudrions savoir. Et dans l'agora et l'aréopage de leur cœur qui ne sont pas apaisés par leurs 10 000 dieux, qui se sont faits par eux-mêmes. Il y en a 10 000, et pourtant, ils en font un de plus à un Dieu que nous ne connaissons pas. Il faut qu'il y ait plus que ça. Je crois qu'il y a des millions de personnes autour de nous, toi en ligne, il faut qu'il y ait plus que ça. Is this all there is? Is this all there is? Je n'ai pas le temps d'aller en détail, je vais le faire dans le prochain message, mais un article fascinant qui a été écrit dans le New Yorker, qui a fait exploser les médias sociaux par le Dr. James Wood, professeur et doyen de la faculté de philosophie et sociologie de Harvard, a écrit un article sur « Is this all there is? » Et il a interviewé des centaines et centaines de personnes les plus... Il a choisi, c'est intentionnel, des capitaines d'industrie, des universitaires, des gens qui ont réussi, des gens qui ont fait des fortunes, des vedettes du sport, des vedettes des médias, et des gens qui avaient tout. Que le reste d'entre nous, on dit, lui, il a tout pour voir un fil commun, un cri dans leur cœur. Est-ce qu'il y a juste ça? Est-ce qu'il y a juste ça? La parole de Dieu nous enseigne, les philosophes, certains disent que c'est Augustin, d'autres disent que c'est Blaise Pascal, qui a dit, il y a dans le cœur de l'être humain un vide avec la forme de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes là, nous allons être le Dieu qui ne connaît pas et le Dieu que tu ne connais pas nous appelle à l'agora et à l'aropage où nous allons annoncer qu'il est amour et qu'il veut que tu te rapproches de lui. Actes 17, versets 27 et 28. Il a voulu que les hommes cherchent le Seigneur et qu'ils le trouvent même en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de vous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Le Dieu que tu ne connais pas, il est amour. Il veut que tu t'approches de lui. Steve Jobs, le multimilliardaire, cofondateur bien sûr et PDG de Apple, à quelques mois de son décès, a mis en ligne cette confession qui a été likée, tweetée, partagée à des millions de personnes. Des millions de personnes ont dit, je comprends ce qu'il veut dire. Je m'identifie à ça. Il a écrit avec une transparence hallucinante. C'est étrange et terrifiant de penser que nous pouvons avoir accumulé toute cette connaissance, toute cette expérience et que nous disparaissions en poussière vers le néant. Je voudrais tellement croire qu'il y a un après qui survit, quelque chose qui demeure. J'ai été habité par un vide et une solitude, une déconnexion toute ma vie qu'aucune réalisation ou connaissance n'a pu combler, comme si toute ma vie, il me manquait quelque chose de transcendant que je n'avais jamais connu. Albert Einstein a dit beaucoup de choses sur Dieu. Il a dit ceci, « Quiconque ne croit pas dans une intelligence suprême, un pouvoir cosmique, un ordre intelligent est un insensé, a fool. » C'est pas moi qui le dis, c'est Albert. Vous irez vous obstiner avec lui. Quiconque ne croit pas, il répète enfin un verset de la Bible qui dit « L'insensé, celui qui a perdu son sens, dit que tout ça s'est fait par soi-même. » Alors, Einstein dit « Quiconque ne croit pas dans une intelligence suprême, un pouvoir cosmique, un créateur, est un insensé. » Mais voici la deuxième phrase. « Mais nous ne pourrons jamais le connaître. » Et j'ose vous dire aujourd'hui que Einstein avait tort. Je ne le confronte pas sur ses connaissances scientifiques. J'aimerais dire aujourd'hui, tu peux le connaître. Il veut se faire connaître de toi. Il veut que les hommes le cherchent et qu'ils s'approchent de lui, afin qu'il puisse, même en tâtonnant, c'est un cheminement où il n'y a rien, c'est pas lisse, il y a toutes sortes de combats, toutes sortes, j'ai avancé, j'ai reculé, j'ai gagné et je me suis éloigné. Mais même en tâtonnant, des fois, je ne sais même pas comment le trouver, mais il est là, il est proche de toi, il t'attend. Si tu faisais un vox pop avec tes amis, avec ton entourage, avec plein de gens autour de n'importe qui autour de toi, tu demandais aux Québécois qui ne connaissent pas Dieu de compléter la phrase « Dieu est », qu'est-ce qu'ils répondraient? Dieu est très loin. Dieu est une invention humaine. Dieu est tel que je le conçois. Dieu est colère et jugement. Dieu est instrumentalisé par des religieux depuis des siècles pour souiller l'histoire humaine en son nom. Dieu est introuvable. Dieu est, qu'est-ce qu'il répondrait? Il est inatteignable. Dieu est l'être supérieur, le bonhomme en haut, une forme étrangère, une force éthérique dans l'univers. Dieu est l'intelligence indéchiffrable, indifférente, inatteignable. Qu'est-ce qu'il répondrait? Dieu, quel que soit ce qu'il est, il n'est certainement d'aucune valeur ou importance pour moi dans ma vie. Dieu, Dieu est les religions du passé. Alors, le Seigneur arrive à toi aujourd'hui, la parole de Dieu arrive à toi, le témoignage de millions arrive à toi à travers les âges pour te dire, Dieu est amour. Il est par-dessus tout amour. Il est un Dieu qui veut, il aime que les hommes, les femmes se rapprochent de lui. Il veut se laisser trouver par toi. Il s'est révélé en Jésus-Christ. Il veut te donner la vie, le mouvement et l'être. Il y a une abondance de vie. Le mouvement représente la capacité, le développement, l'accomplissement. Il y a une mesure d'abondance, il y a une mesure de vie, il y a une mesure de mouvement et d'être. Dieu ne veut pas seulement que tu fasses, Dieu veut te faire de toi. Il veut une relation avec lui te permet un mouvement de vie que tu ne pourrais jamais trouver auparavant. Un mouvement hors de tes chaînes, hors de tes dépendances, hors de tes limites. Un mouvement, une vie d'abondance et d'être la personne qu'il avait préparée que tu sois au-delà de tout ce que tu peux imaginer. C'est lui qui donne la vie, le mouvement et l'être. Et quelqu'un devrait le célébrer ce matin. C'est lui l'auteur de la vie. J'arrive à la fin ce matin, il nous appelle à l'agora et à l'aropage, il est amour, il veut que tu t'approches de lui et il annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Dernier texte, dans le même message, verset 30, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé le jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, Jésus-Christ, dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, certains se moquèrent. D'autres dirent, peut-être plus tard, une autre fois, je remets à demain. Mais quelques-uns néanmoins s'attachèrent et crurent. Denis, l'Aréopagite, et une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Dans son amour, il ne tient pas compte de tout ce que j'ai fait dans mes temps d'ignorance. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, toutes les choses que tu regrettes, toutes les choses que tu portes, toute la honte, toutes les choses que son pardon et sa grâce font qu'il ne tient pas compte de tout ce que j'ai pu être et faire dans mon ignorance de qui il est, de ce qu'il pouvait faire pour moi. Et il m'offre son pardon, sa grâce sans limite. Dans son amour, il offre sa puissance, son énergie, sa capacité divine. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts peut venir redonner la vie à ce qui était mort en moi. Quelque chose qui est mort en toi. Il y a une paix, il y a une confiance, il y a un espoir pour l'avenir, une capacité d'aimer, de pardonner, de croire. Il y en a qui sont ici, il y a des choses qui sont mortes en moi. Il appelle dans son amour chaque homme à changer, chaque femme. Maintenant, chaque homme, chaque femme, en tout lieu, ici toi, en ligne où que tu sois, t'appelle à venir t'offrir à lui dans son amour. Il annonce maintenant aux hommes que par la repentance, ils peuvent recevoir tout ce qu'il a à leur offrir. Le mot repentance veut simplement dire changer de direction, changer de pensée et de direction. Je marchais en ne le connaissant pas, je marchais en l'ignorant, j'ai dit, Seigneur, je fais des pas vers toi, je viens vers toi, je viens vers toi, je viens vers Jésus qui est mort et ressuscité pour moi. Je veux te connaître. Il y a une interview qui roule en ligne en ce moment. Je sais que c'est juste une conversation, mais Elon Musk se faisait interviewer, il parlait de la Bible, et comment est-ce qu'il depuis longtemps, il lit les Écritures, et je ne déclare pas ça comme un chrétien ou quoi que ce soit, c'est lui qui sait ce qui se passe dans son cœur, mais il a dit ceci, avec sérieux et émotion, allez voir en ligne. « Si Jésus sauve aujourd'hui, je voudrais certainement être sauvé, et j'ai surtout vraiment besoin d'être sauvé. » Après ça, il dit « sauvé de moi-même, sauvé de, sauvé de, sauvé de. » Et je n'ai jamais rencontré Elon Musk. Mais j'ai dit à Elon Musk, j'ai dit à toi aujourd'hui, oui, Jésus veut et peut sauver aujourd'hui. Oui, à ceux qui tournent, se repentent et viennent à lui, il n'y a pas de limite à l'œuvre qu'il peut faire dans leur cœur. Et que ceux qui l'ont vécu encouragent quelqu'un qui s'apprend à prendre cette décision en ligne et en personne. Dans son amour, il veut te porter, te donner des forces au-delà des tiennes. Dans son amour, il m'offre une vie abondante maintenant et la vie éternelle dans le après. Dans son amour, il appelle mon nom, mais il me laisse le choix. Avez-vous lu dans le texte? L'apôtre Paul a proclamé le Dieu que vous ne connaissez pas, en Jésus-Christ. Certains se sont moqués. Ça peut être ton choix. Certains ont dit, OK, mais plus tard. Et peut-être qu'aujourd'hui, en ligne et en personne, tu remets toujours à plus tard, mais aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. Et certains l'ont reçu. Vous avez déjà pensé comment c'est hallucinant à quel point la Bible est remplie de prénoms, même de gens qui pour nous étaient. Pourquoi est-ce que parmi les multitudes, les milliers et les milliers, les dizaines de milliers qui sont venus à Christ à l'époque des Actes des Apôtres, Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu inspire Luc qui écrit ce récit pour dire « ce jour-là, c'était Denis, ce jour-là, c'était Damaris » parce qu'il est le Dieu personnel. Il est le Dieu, quel que soit le nombre de milliers de personnes qui vont regarder ce message ou qui se vont rassembler à la Nouvelle Vie, c'est à propos de toi. C'est toi, c'est une personne. Et lorsque tu vas te présenter devant Dieu, tu ne seras jamais séparé de Dieu pour l'éternité à cause de choses que tu as faites. Tu es séparé de Dieu tout pour l'éternité, pour les choses que tu aurais refusé de faire. La seule question qui compte, c'est qu'est-ce que tu as fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Toutes les autres choses ont été portées par lui à la croix. La seule chose qui va te séparer de Dieu pour l'éternité, c'est que tu refuses, c'est quelque chose que tu ne ferais pas, que tu refuses cette repentance, ce changement de direction, ce cœur qui dit « Seigneur, je veux te suivre, je veux m'offrir à toi ». Oui, mais pasteur Claude, écoute, si je donnais vraiment ma vie, j'ai invité les musiciens à s'approcher, si j'ai commencé à jouer, si vraiment je donnais ma vie au Seigneur, regarde tout ce qu'il faudrait que j'abandonne, tout ce qu'il faudrait que je laisse, quelle vie que j'aurais. Mais moi, je ne peux pas faire autre chose que de te témoigner de ce que moi j'ai eu à laisser. J'ai été obligé de laisser tous mes tourments, mes fautes, mes culpabilités, le poids de ce que j'avais fait par ignorance, parce qu'il m'a donné son pardon. Parfait, absolu. J'ai dû laisser une vie de méfiance, de solitude, d'isolement, parce qu'il m'a appris à aimer, à recevoir de l'amour, à faire confiance, à pardonner. J'ai dû abandonner, j'ai dû laisser des péchés, le mot péché veut dire manquer la cible. Toutes les choses dans ma vie où je manquais la cible, toutes les dépendances, toutes les erreurs, tous les égoïsmes, toutes les hypocrisies, tous les mensonges. Parce que de jour en jour, non seulement est-ce qu'il m'a pardonné, mais il me change, il me transforme. Et celui qui a commencé une bonne œuvre en nous va l'accomplir. J'ai dû abandonner, même depuis que je le connais, cette culpabilité dévorante parce que je me déçois tellement. Parce que rien ne peut me séparer de son amour. Rien ne me séparera, rien ne te séparera de son amour. Quelqu'un devrait dire oui. J'ai dû laisser ma peur de la mort parce que je connais la place qu'il m'a préparée lorsque mon dernier souffle va être entendu et que je vais me retrouver dans ses bras d'amour. Hier soir, Chantal me parlait d'une dame on aime beaucoup, qui est de notre église, qui est une mamie, qui est une veuve de notre église, que Mme Sigouin, Rolande Sigouin, je pense qu'une photo qui va apparaître à l'écran, il y a quelques années avec elle, et son mari, le pasteur Bernard Sigouin, est un héros pour moi. C'est un monsieur qui a été élevé dans tout le poids, monsieur, qui est, toute sa jeunesse et tout ça dans le poids, du religieux, du catholicisme et du religieux, où il a vu des abus, où il a vécu toutes sortes de choses horribles au nom de Christ. Et ça avait fait de lui quelqu'un d'éloigné, complètement éloigné, qui rejetait Dieu jusqu'à ce qu'on lui présente le Dieu qu'il ne connaissait pas en Jésus-Christ. Il a vécu une conversion formidable, abandonné sa vie à Dieu, un monsieur qui travaillait de ses mains, travaillait dans la construction, mais est devenu pasteur et a fait toute sa vie de même bâtir physiquement, ici au Québec, bâtir des églises physiquement, rassembler des gens, gagner des âmes. Et il a fait ça toute sa vie. Moi, je l'ai connu dans la toute fin de sa vie, où il était très malade, diabétique, allait en dialyse plusieurs fois par semaine. Et moi, j'étais tout nouveau. On commence une nouvelle vie, on est en 1994-95 dans ce coin-là. Et le pasteur Sigouin s'est joint à notre église. Et un matin, je prenais un petit déjeuner avec lui. Lui, c'était le monsieur le plus discret, le plus humble que vous pouvez imaginer. Il n'aurait jamais pensé que je remarquerais ce moment ou que ça deviendrait quelque chose que je raconte pour des années à venir, qui marque ma vie. On était assis dans un petit déjeuner ici à Longueuil, dans une petite place à déjeuner, puis je voulais faire quelque chose. J'étais jeune pasteur. Je dis, pasteur Sigouin, quelqu'un m'avait dit, pasteur Sigouin, il n'a même pas jamais vu la mer, jamais vu l'océan. Je dis, pasteur Sigouin, je veux faire quelque chose pour vous. Elle m'arrive ça en voyage, on va vous payer une vacance, puis il me dit, d'une manière sans aucune grandiloquence, juste tout simplement, il me dit, il y a deux choses, il dit, que j'aimerais que tu puisses faire pour moi. Il me dit, est-ce que tu pourrais prier, je sens que là, ma fin approche, mais est-ce que tu pourrais prier que Dieu me donne encore une année ou deux pour pouvoir prêcher? Et moi, j'étais comme super ému. La fille arrive avec les toasts, puis moi, je suis comme déjà quasiment en sanglots. Je dis, OK, je vais prier pour ça. Puis il dit, l'autre affaire, tu pourrais-tu me trouver quelqu'un qui pourrait me conduire parce qu'ils m'ont enlevé mon permis parce que maintenant, il était presque aveugle. Quelqu'un qui pourrait me conduire, parce que des fois, on m'invite encore à prêcher, mais je peux prêcher, là, même si je ne vois pas, mais je ne peux pas conduire. Je dis, OK, la saucisse, ouais, on va vous trouver quelqu'un. Et un dimanche, un an et demi, deux heures plus tard, un dimanche matin, juste avant la première réunion, la saucisse arrive dans le petit bureau, on se rencontre pour prier avant la réunion. Toujours bien mis, super beau monsieur. À ce moment-là, il était en dialyse plusieurs fois par semaine, son visage était gris. Il s'approche et me dit, j'ai prêché hier soir. Je dis, ah oui, vous avez prêché hier soir? Oui, j'étais dans un endroit, que, merci le jeune homme que tu m'as envoyé, il m'a reconduit. Puis j'ai prêché l'Évangile, puis il y avait quelqu'un qui était là. Il y avait un jeune homme qui était là, qui s'était éloigné de Dieu depuis 15 ans. J'ai fait l'appel et il a donné sa vie au Seigneur. J'ai prié avec lui. J'ai gagné une âme à Jésus hier soir. Je dis, waouh, il rayonnait. Je dis, waouh, c'est formidable. On s'en va dans la réunion et à la fin de la réunion, il est assis là, deuxième rangée, avec sa dame, en train de louer Dieu. Puis à la fin de la réunion, on a chanté un chant à l'époque qu'on chantait qui disait, me voici, serre-moi très fort dans tes bras d'amour. Et alors qu'on chantait « Dans tes bras d'amour », le pasteur Sigouin est parti dans ses bras d'amour. À l'église, un dimanche matin, quelqu'un qui ne comprend pas, dit « Ah, en ligne, ouais. Tu veux-tu dire qu'il est décédé, il est mort dans l'église? » Non, non. Je vous dis que l'enveloppe s'est éteinte, mais lui, il est parti dans les bras d'amour avec son Seigneur, avec son sauveur. Alors, vous devriez applaudir tout ça. Avec tout le respect, est-ce que vous pouvez comprendre que Bernard Sigouin a quitté la terre beaucoup plus riche que Steve Jobs? Avec cette richesse éternelle. Alors ce matin, c'est le moment. Alors j'aimerais demander à tout le monde ici, dans le sanctuaire à Nouvelle Vie, toi en ligne, juste de pencher la tête un instant. Seigneur, je veux prier ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, tu nous appelles à l'Agora et à l'Aréopage. Tu appelles chacun d'entre nous comme croyants. Et ce matin, Seigneur, nous voici ici à Longueuil et par milliers en ligne. Seigneur, je ne veux plus être ce chrétien qui est seulement irrité, qui est toujours irrité envers la société, irrité et colérique envers ce qui prend place à l'extérieur. Je veux que tu me redonnes ton cœur, donne-nous ton cœur, redonne-nous ton cœur impliqué, incarné. Ton cœur, Seigneur, qui s'investit à inviter et à te faire connaître. Redonne-nous ton cœur, notre Dieu. Ce matin, je prie pour chaque personne au son de ma voix, ici à Nouvelle Vie et en ligne, qui a besoin de s'approcher de toi. Avec repentance, de venir ou de revenir au Dieu qu'il ne connaissait pas, par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alors, pendant que tout le monde est en prière, en ligne, on prie pour toi aussi en ce moment, mais ici à Nouvelle Vie. Si vous êtes ici en ce moment, vous dites, Pasteur Claude, ce message-là, il est pour moi. Je veux venir avec repentance, je veux revenir à Dieu, je veux venir à lui pour la première fois. Je reconnais que j'ai besoin du Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur. C'est lui qui peut me donner la vie et ce matin, je veux le connaître. Est-ce que ça veut dire que tu n'as plus de questions? Est-ce que ça veut dire que non? Mais tu viens avec un cœur sincère, tu viens simplement offrir ta vie, tu viens revenir à son amour, tu viens t'approcher de lui. Il ne t'a jamais quitté, il a toujours été près de toi, il est là pour toi aujourd'hui. Alors si partout à travers ce lieu, vous dites, c'est alors que la main de Dieu est tendue vers moi, je n'ai pas la folie de la rejeter ou de la repousser, ou toi en ligne, cet appel est pour toi. Là où tu es, alors que la main de Dieu est tendue vers toi et que tu dis, je veux prendre la main du Seigneur, je veux l'accepter dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur, je veux le connaître. Je vous demande maintenant, là où tu es, de lever ta main partout à travers ce lieu. Wow, il y a une main, et deux, et trois, et quatre, et cinq. Et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12. D'autres au milieu ici. Et 13, et 14, et 15, et 16, et 17, et 18, et 19, et 20. Il y en a qui lèvent les deux mains. Et 23, et 24, et 25, et 26, et 27. Vous pouvez imaginer, toi, en ligne, tu peux le faire là où tu es. Et maintenant, Seigneur, que ton esprit vienne témoigner à leur esprit. Seigneur, c'est le jour le plus important de leur vie. Ils te donnent leur cœur, ils s'ouvrent à toi. Et maintenant, Seigneur, viens témoigner à leur esprit que ce jour peut être le commencement d'une vie nouvelle. Que tu deviendras celui qui leur donne la vie, le mouvement et l'être, le pardon, le salut pour une vie abondante sur cette terre et pour une vie éternelle. Seigneur, tu dis dans ta parole que s'il y avait une seule main, une seule personne en ligne ou en personne qui aurait tourné son cœur vers toi, que tout le ciel éclate à ce moment-là, à chaque fois, dans un tonnerre d'acclamation. Tous les anges du ciel acclament le plus grand de tous les miracles. Alors nous nous joignons aux anges du ciel pour acclamer le plus grand de tous les miracles. Des hommes et des femmes qui viennent à toi.